Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGR. Enfin, coup de cœur, aujourd'hui on fait plus un petit point sur un style, un genre, une catégorie de livres, aux frontières plus que floues dans l'imaginaire collectif, le roman graphique. Alors, d'où ça vient, de quand ça vient, de quoi ça vient, de qui ça vient et de pourquoi est-ce que comment le terme a dérivé dans la langue, au point de ne plus trop savoir de quoi qu'on cause. Tout le monde a plus ou moins sa propre définition. Je vous propose donc un petit récap de tout ce joyeux foutoir. Vous êtes prêts? On décolle pour un peu d'histoire illustrée. Pardon. D'histoire de l'illustrer, histoire de lustrer tout ça. 1827, Genève. Et oui, on remonte loin. Et encore, j'ai lu tout le côté oriental pour lequel il m'aurait fallu beaucoup plus de temps et toute la proto-BD qui narre aussi des histoires sous forme dessinée, que ce soit en peinture rupestre, en fresque gravée, en hiéroglyphe mythologique, en estampe colorée ou encore en tapisserie conquérante. Mais la BD se définissant à la fois par sa forme, un art narratif séquentiel, je simplifie à l'extrême, et son médium, le papier, on situe donc en général son début à 1827 à Genève par Richard Topfer, homme de lettres, académicien, mais surtout directeur de son propre pensionnat. Et c'est à ses élèves qu'il montrera les premières planches de BD qu'il dessine pour les divertir. Plus tard, son ami Goethe, qui tombera dessus, l'encouragera à publier ses œuvres, et ainsi naissent ce que le consensus reconnaît comme les toutes premières bandes dessinées. Pendant des années, le genre s'imite, s'exporte en France, Allemagne, Angleterre, et puis un peu partout. Plein de nouveaux auteurs copient, développent et imaginent de nouveaux éléments. Aux États-Unis, Richard Felton Oldco, dans le Yellow Kid, instaure la pratique du phylactère en bande dessinée, ce qui existait déjà dans la satire et la caricature, ainsi que dans certains tableaux. Mais bref, chaque pays, culture, développe son propre langage dessiné, son propre support, ses propres méthodes d'impression et ses plus ou moins propres systèmes d'édition. Les genres se séparent, se rejoignent. En Europe, les illustrés pour enfants explosent et aux États-Unis, les family strips se diffusent partout. 1933, New York. Eh oui, 200 ans d'histoire en deux minutes. On arrive au vif du sujet qui nous préoccupe, le marché du comics. Anciennement Funnies, change de format d'édition. Le comic book devient un format de diffusion de bande dessinée originale. C'est-à-dire pas seulement des recueils de strips parus dans les journaux, mais bien un format dédié uniquement à la BD. Ce qui va permettre une plus grande richesse de création. Et en mars 1938 apparaît quelque chose qui changera à tout jamais l'histoire du comic en particulier et de la BD en général. Ça t'inspire quelque chose, Lisa ?
Superman, évidemment.
Tout à fait, le premier super-héros qui nous arrive des étoiles. Le genre va littéralement redéfinir l'édition des comics, à pratiquement en étouffer le reste. L'édition ne se base plus que là-dessus. Bien plus tard, après-guerre, apparaît un autre format, plus long, plus complet, qui se veut plus intimiste, moins distraction, plus sérieux peut-être. Mais il y a un hic. Le genre comics est principalement super-héros aux États-Unis, à l'instar des illustrés en France, qui sont avant tout à destination des enfants. Le grand public considère du coup largement le média BD comme quelque chose d'enfantin, de naïf, de gentil, un truc mignon quoi, un peu concon, voire même dangereux pour une jeunesse en perte de repères, qu'un adulte digne de ce nom ne devrait pas lire, à l'instar des littératures de l'imaginaire, SF, fantasy et autres fantastiques. Ainsi, le public américain n'est pas réceptif à ces nouvelles BD. Des auteurs tentent alors de redéfinir leurs œuvres. C'est Kyle Richard, critique du genre, qui utilisera la première fois le terme « graphic novel ». Puis, quelques auteurs feront inscrire le terme sur leur couverture. C'est finalement le grand, l'unique Will Eisner, en 1978, qui popularisera le terme avec son œuvre « Un pacte avec Dieu ». Un recueil de nouvelles en noir et blanc ayant pour thème son enfance et le Bronx qui en ait été le théâtre. BD bien entendu disponible dans le réseau des médiathèques. Will Eisner fera ainsi rentrer la BD sous le nom roman graphique par la grande porte dans les librairies grand public non spécialisées. En l'utilisant, il marquait une intention, celle de se distinguer du comic et de la bande dessinée produite jusque-là, en voulant donner une image d'un format plus sérieux, moins enfantin et s'adressant aux adultes pour neutraliser les connotations négatives du comic books et du comic strip, l'équivalent populaire du 48cc, c'est-à-dire le 48 pages couleur cartonnée en France. Si aux États-Unis ce changement a été important pour promouvoir ce genre, en France, où le terme arrivera bien, bien plus tard, et sans rien bien vraiment définir, l'édition a profité de l'engouement américain pour ce nouveau genre, afin de vendre des BD à un lectorat qui n'en lisait pas. Si cette volonté est peut-être de diffuser plus largement le support bande dessinée, l'intérêt n'en est pas moins très pécunier. C'est du marketing pur, et ça a apporté ses fruits. Mais, par déformation, l'idée que les romans graphiques sont un genre à part entière de la bande dessinée classique et des comics est restée bien ancrée dans l'esprit d'une partie du grand public jusqu'à aujourd'hui. Alan Moore, gigantesque auteur, disponible lui aussi sur le réseau, dira « C'est le genre de marketing avec lequel je n'ai jamais eu la moindre sympathie. Le terme BD me va aussi bien. Le vrai problème, c'est que ce terme roman graphique a justement été inventé pour signifier BD cher. Et du coup, vous avez des gars, parce que ça attire l'attention, ils te collent 6 numéros de n'importe quelle merde sans la moindre valeur, et puis ensuite, à la réimpression, ils te mettent ça sous une jolie couverture avec le nom roman graphique. Le roman graphique en France, c'est une BD qui n'ose pas le dire. C'est une BD qui se la pète un peu. Surtout quand on entend encore aujourd'hui dire « Je ne lis pas de BD, je lis des romans graphiques ». Tout ça sur le même ton que « Tu veux pas prendre des vrais livres plutôt ?» Alors, une fois pour toutes, débarrassons-nous de cette aberration sémantique. Le roman graphique, quoi que ça veuille dire, c'est une BD. Et les BD sont de vrais livres. Sinon, on sous-entend ainsi que la BD est une sous-culture. Et ce, de la même façon qu'on accusait déjà Dumas père, Balzac ou Dickens de ne pas produire de la vraie littérature quand ils publiaient des romans feuilletons dans les journaux. Mais je m'emporte un peu. On peut tout de même définir d'une certaine façon, en France, le contour du roman graphique, tout en gardant en tête que rien n'est figé. Il existe dans les faits une forme de BD un peu différente de l'édition classique, avec une définition à laquelle je vais me faire un plaisir de donner des contre-exemples. Le roman graphique, ça désigne, en général, une œuvre longue, plutôt sérieuse et ambitieuse, contenant des personnages aux psychologies complexes, destinés à un lectorat adulte et publiés sous forme d'album. Bien sûr, tous les romans graphiques ne remplissent pas toutes les cases. Hugo Pratt n'a jamais prétendu faire du roman graphique, et pourtant, il y a des BD de super-héros considérés comme romans graphiques. Dans les romans graphiques, on est censé trouver des personnages à la psychologie complexe, mais on en trouve aussi bien chez Franquin et chez Watterson, mais surtout, surtout, il faut aussi bien faire attention à ne pas confondre plus sérieux avec plus intelligent. C'est dangereux d'amalgamer les deux. Le roman graphique, c'est éventuellement une question de ton, de forme différente, mais ce n'est en aucun cas supérieur au reste de la production. Bref, l'important ce n'est pas lire de vrais livres, de la BD, du manga, du comics ou des romans graphiques, de lire des documentaires, des journaux, de lire sur papier ou en numérique, il faut lire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, ou ne pas lire si on ne veut pas. La lecture c'est un plaisir, pour soi, jamais pour les autres. Bien entendu, tous les auteurs cités sont présents sur le réseau des médiathèques du QRGA. Sur ce, je vous laisse, plein de bonnes lectures et à bientôt.
Merci Victor, toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques, les coups de gueule aussi sont bien sûr à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr, la suite de ce mag, c'est après la musique.